con, ça ose tout. Les massacres, on les reconnaît.
Bonjour et bienvenue dans En aparté, votre émission artistique et culturelle dans cette émission du mercredi 16 décembre. Je reçois aujourd'hui deux invités de la compagnie Correspondance, Marion et Delphine, sont avec moi pour leur dernière pièce, Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, qui était censée s'être jouée hier au Safran, mais que vous pourrez redécouvrir très bientôt. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Alors, on va peut-être commencer pour parler de la compagnie Correspondance, compagnie qu'on connaît maintenant bien sur Amiens, dont Marion, vous êtes la metteuse en scène.
Oui, alors c'est une compagnie qui est dans un petit village entre Flixecourt et Abbeville. À Dunkerque, c'est une compagnie de théâtre qui est implantée en Picardie depuis 2007 et qui alterne entre des créations publiques, très jeunes publics et tout public. Pour faire vite.
Votre dernière pièce en date était plus jeune public.
Oui. C'est Où tu vas, hein, une pièce que j'ai écrite. Dans laquelle joue d'ailleurs Delphine, Mavicana Badinga aussi, Delphine Galland. Voilà, c'est une pièce qui tente de tourner en ce moment, parce que mais bon, aucune pièce ne tourne, donc posée tourner en ce moment, et qui est partie au Festival d'Avignon, là, avec la Région de France.
D'accord. On parlera un petit peu plus tout à l'heure en deuxième partie des conditions actuelles du spectacle et des représentations. Alors, la pièce que vous étiez censé jouer hier, Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, quelle a été l'envie de jouer cette pièce?
Alors, c'est une œuvre un peu à part de Bertolt Brecht que j'ai fréquentée lors de mes cours de ma formation de comédienne, de mes cours de théâtre. Donc il y a de cela un moment. Et c'est des scènes qui m'étaient restées en tête parce qu'elles sont vivantes, très quotidiennes et qu'elles résonnent très fort. Ça m'a accompagnée tout au long de ces quasi 30 dernières années. Je l'ai trouvé régulièrement dans ma bibliothèque et je l'ai relu parce que où tu vas, de la peur de l'autre, de la peur de faire de la place à l'autre autour du sujet des migrants, et que j'avais très envie qu'on la creuse avec une création suivante, et m'est revenue en tête cette pièce que j'ai relue et qui m'a semblé d'une actualité absolument vertigineuse par certains aspects, et c'était il y a 2 ans. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de plus en plus vertigineux, au point, à un point tel aujourd'hui. C'est presque effrayant, mais voilà. Il semblait que c'était très intéressant de reparcourir cette histoire. Ça m'a semblé intéressant parce que c'est une missive que Bertolt Brecht adresse aux générations futures. C'est comme ça qu'il présente ce spectacle. Qui parle des colons des Allemands de 1903 à 1938, donc au moment de l'avènement d'Hitler. Donc c'est leur quotidien juste avant la guerre mondiale, et comment la pression monte dans la vie de tous ces gens, hein, et comment on les prépare à la guerre, mais aussi comment ils les isolent dans une idéologie de plus en plus dure, comment ils cultivent autour d'eux et dans le moindre de leurs faits et gestes, la peur. Voilà. Et donc, ça m'intéressait beaucoup que cette missive, on en soit les porteurs, et que dans un deuxième temps, suite à cette création, on fasse une réponse à la missive, c'est-à-dire une création qui serait comme une espèce de réponse sur ce qu'elles seraient aujourd'hui nos grands-parents et nos misères. Voilà.
Oui, parce que ce projet est vraiment en deux étapes. La grande peur et misère du Troisième Reich est une première étape et tout ça
Oui.
fera un diptyque, c'est ça?
Voilà, c'est ça, absolument. C'est un diptyque. L'idée, c'est vraiment que, avec la même équipe de création que celle de Grand-Peur, on ait cette aventure autour des réactions des publics, des actions culturelles aussi autour de la pièce,
Oui.
qu'on ait un matériau de réaction qui nous permette une écriture contemporaine. Voilà.
Alors, cette pièce, on peut lire que cette pièce avait été écrite vraiment à la même période, en fait, sous le pouvoir d'Hitler.
Oui, un peu plus tard. Mais en fait, Bertolt Brecht, il a fui Hitler, hein, il a fui les nazis assez tôt, au moment où les nazis sont arrivés voir. Je crois que, sans dire de bêtises, c'est en 1933 qu'il est parti. Et donc, au moment des autodafés, enfin, il a eu très peur pour lui, il était sur une liste noire, hein. Donc après ça, il s'est énormément documenté. On a trouvé apparemment un lot d'archives assez impressionnant. Il s'est énormément documenté. Il a collectionné les articles de presse et les témoignages nombreux du côté des Allemands qui racontaient leur vie sous Hitler. Et c'est à partir de ces témoignages qu'il a écrit cette pièce.
D'accord, donc c'est un recueil, un petit peu avec tout ce qu'il a pu récolter et entendre.
C'est une somme de, ouais, c'est une somme de 24 scènes, en fait. C'est une somme de 24 scènes qui sont comme des courtes pièces, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui décrivent l'intérieur du. Oh, excusez-moi, c'est mon chat. L'intérieur bourgeois, dans une cuisine, dans une usine, tout ce qui peut s'y passer, les relations entre les gens, et puis aussi bah, cette peur qui s'insinue partout, cette espèce d'isolement qui saisit absolument toute la population.
Oui, on est en Allemagne, mais chacune des 24 scènes est vraiment un lieu, une date.
Voilà, c'est
C'est
ça.
ça.
Chaque scène correspond à un lieu et une date, tout à fait. Et on démarre de 1933 jusqu'en 1938, comme ça.
D'accord. On a une petite période condensée en 24. Peut-être qu'on peut.
Voilà. Alors, nous, on n'a pas monté les 24 scènes, hein.
Oui, vous en avez monté combien là sur cette pièce?
Jamais les 24 scènes n'ont été. Oui, je disais jamais les 24 scènes n'ont été montées ensemble. En fait, on choisit un certain nombre de scènes à créer.
D'accord, et sur le spectacle, c'est un peu combien sont joués à chaque fois en même temps? Est-ce que vous aviez déjà des idées de lesquelles passer, lesquelles ne pas passer? Comment vraiment cette mise en scène a
Ah oui,
été
bah oui, c'est une
travaillée?
écriture. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le choix des scènes détermine toute l'écriture du spectacle, hein. Donc voilà, moi j'ai fait un choix préalable,
Oui.
voilà, qui notamment a privilégié les ambiances d'intérieur, les ambiances chez les gens, dans l'intimité des gens.
Vous étiez en train de me dire que vous avez pris vraiment. Il y a un choix qui a été fait au préalable par vous-même pour choisir
Oui.
exactement quelle scène allait être choisie, allait être prise pour créer ce spectacle.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parmi les 24 scènes, j'en ai choisi 12 et
Oui.
qui déterminent et forcément qui sont une écriture à part entière, puisque la manière de choisir et de monter ces 12 scènes, c'est que c'est vraiment une façon de poser un regard sur cette œuvre. Voilà.
Alors, peut-être qu'on peut maintenant entrer dans la discussion de la mise en scène, comment elle a été travaillée, voir aussi un petit peu la musique, les décors, et voir avec Delphine Galland la position de comédienne, à savoir que, étant donné donc il y a 12. 12 lieux, 12 scènes différentes. Chaque comédien, chacun des 6 comédiens, comment chacun s'est approprié ces différents personnages.
Alors, donc je prends la parole, si j'ai bien compris. donc tout ça, c'est un choix de mise en scène, et évidemment de la part de Marion, qui a fait donc appel à 6 comédiens, 3 hommes et 3 femmes, pour donc jouer 12 scènes différentes du quotidien. Ça regroupe un nombre assez conséquent de personnages différents, hommes ou femmes, qui incarnent ou des hommes ou des femmes d'ailleurs. Enfin, il peut y avoir des femmes de chambre, des SS, des SA, une femme juive, la fille d'une vieille dame. Donc voilà, le nombre de personnages est assez varié. Et la particularité, après, voilà, je laisserai Marion discuter de ça, c'est que c'est une pièce de théâtre, mais il y a des saveurs d'autres disciplines, notamment de la danse. Mm-hmm. Il y a aussi des projections vidéo, il y a un travail de costume très conséquent qui ont été faits par Sausen Mustafova, et une scénographie remarquable avec... des modules qui changent les ambiances pour passer d'un état d'intimité à un autre, mmh. pour changer de lieu. Un travail de lumière aussi remarquable et très identitaire, j'ai envie de dire, avec une ambiance particulière, et une composition musicale pour la création de ce spectacle. Et émotionnellement, en tout cas, en tant qu'interprète, passer d'un personnage à un autre, d'une humeur à une autre, selon l'histoire racontée sur la scène, est particulièrement éprouvant, très intéressant, très formateur. Voilà, on parle on peut parler d'humiliation, de peur, de colère, d'amour, de fraternité, mais aussi de faiblesse humaine, d'abandon. Et c'est un travail, en tout cas en tant qu'interprète, très 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 riche. Et comprenez notre frustration de ne pas avoir pu jouer hier, parce que, comme disait Marion, le message est tellement fort que là, notre envie est de clamer haut et fort le texte de Brecht, cette missive qui nous est adressée, qui est adressée aux plus jeunes aussi. Voilà. Bref.
Donc, tout ce qui est aussi, donc, vous nous parliez du décor, de lumière, de vidéo, vous permet aussi de pouvoir ressentir, vous aider à changer de personnage.
Oui, bien sûr, parce que notamment, enfin, je prends l'exemple par exemple du chant, que je n'ai pas mentionné, mais qui est aussi présent dans la pièce. Le chant, la composition musicale et les ambiances lumineuses sont des personnages à part entière pour nous porter et nous aider à interpréter, en tout cas nous accompagner dans l'émotion et dans l'instant T de l'émotion à incarner avec le texte de Brecht et les directives de Marion qui sont évidemment précieuses pour toucher le juste, en tout cas à essayer, en tout cas, mais en tout cas tout ça est très très fort effectivement.
Shadows move.
De cette frustration de ne pas avoir pu présenter la pièce hier au Safran. C'était une première? Ça aurait été une première?
Une première annulation?
Non,
du spectacle? Eh bien, officiellement, oui. La sortie de Grand Peur et Misère du Troisième Reich a été faite en huis clos le 13 novembre à l'espace Saint-André d'Abbeville. Devant quelques programmateurs et les membres de l'équipe. Mais la première aurait dû effectivement être hier avec un public nombreux qui avait répondu à cette invitation, on va dire.
Trois représentations étaient pleines, c'est ça ?
Oui, avec un nombre effectivement de spectateurs qui étaient limités dû au protocole sanitaire et... Mais oui, la salle était comble. Je ne pense pas me tromper en disant qu'en 3 jours, c'était complet quand l'annonce de la date a été a été postée par le Safran. Et donc oui, cette frustration de ne pas, vivre et respirer, avoir une respiration commune avec le public et de ne pas être dans le partage et l'échange, dans les questionnements aussi qui sont proposés et joués et par Marion et par l'équipe artistique. Donc oui, la frustration est grande, effectivement.
Vous avez débriefé un petit peu sur cette situation ensemble avec l'équipe pour discuter entre vous.
Alors on s'est parlé. Allô.
Oui.
Oui, ben on a discuté. En fait, on était en contact les uns avec les autres puisque le jeudi soir, quand le Premier ministre a fait son annonce, nous on était sur le point de charger le décor dans le camion pour faire le montage du spectacle le lendemain. Donc en fait, on était suspendu aux lèvres de notre Premier ministre et on y a un peu cru. Enfin, on a voulu y croire jusqu'au bout. Donc il faut qu'on échange entre nous le soir même. Une déception parce que c'est un peu comme si on reporte une deuxième fois la première. Colère et d'incompréhension. On est complètement solidaire du mouvement actuel, évidemment, qui s'érige en faux par rapport aux décisions qui sont prises d'en haut. On en a parlé parce que c'est dur. Alors, c'est une blessure parce que on nous annonce ça très très peu de temps avant.
Oui.
Donc, on n'a pas le temps d'anticiper du tout. Non, c'est un peu comme si on piétinait et on foulait au pied notre travail, puisqu'il n'est pas très estimé pour être aussi facilement
il est non essentiel.
Mis au rebut. Mm-hmm. Il est derrière un discours qui se veut empathique. Mm-hmm. Ça dénote beaucoup de méconnaissance de notre travail et beaucoup de légèreté vis-à-vis de ce que ça comporte et d'énergie et d'engagement, j'allais dire, en toute laïcité. Donc je trouve que voilà, on est très en colère parce que on pense que ça tu peux avoir lieu, voilà. Alors, Brecht, il dit que le fascisme, ce n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise.
Il était dans le...
On peut entendre ce mot crise de bien des manières. Alors, je ne dis pas que nous sommes rentrés dans une période de fascisme, mais ça en a beaucoup le goût et beaucoup l'odeur quand même. Hein. Donc, moi, je trouve que, comme disait Jeanne Balibar à la radio ce matin, il n'y a pas assez de remous et de remue-ménage autour de ça, notamment de la part de nos élus. Alors, j'ai entendu quelques prises de position quand même. Hein. Certains réagissent, mais on devrait être tous absolument anéantis par ce genre de nouvelles. Et je trouve que dans l'opposition, on n'entend pas grand-chose et pas assez fort, en tout cas. Voilà, moi, je pense que c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est très grave. En dehors du fait que ça met toute une profession en grand et grave danger pérenne, c'est la pensée des gens, leur émotion qu'on assassine là. Voilà, donc c'est... Oui, je trouve qu'il faut le dire parce que notre spectacle, il parle justement de gens qui sont totalement isolés dans leur peur. Et aujourd'hui, on est en train de nous isoler complètement, de nous confiner dans une forme de peur et de résignation. Mmh. On est en train de nous faire penser qu'il n'y a pas d'autre alternative que celles qui sont prises actuellement. Comme on nous a fait, comme à un certain temps... Je pense aux gens qui n'avaient pas d'autre alternative que le travail et la guerre. Voilà, les alternatives changent, mais elles sont assénées avec la même violence. Voilà.
Est-ce que il y avait vraiment quelque chose que vous souhaitiez rajouter ?
On va peut-être remercier quand même les partenaires et tout ça, peut-être parler des gens qui nous ont accompagnés.
Oui,
peut-être être un peu positif.
voilà, aussi parler peut-être des lieux qui vous ont accueilli en résidence.
Tout à fait. Très important, hyper précieux. On a quand même été depuis le début soutenu par la DRAC, des Hauts-de-France, conseil régional, le conseil départemental. On a été aussi soutenu par l'ADAMI, l'ASPEDIDAM. On a également eu un soutien précieux. On a pu travailler en résidence à l'abbaye de Saint-Riquier, au Safran de nombreuses fois. Et ils nous ont vraiment sauvé la mise. Un grand merci à Iqbal et à son équipe. Un grand merci à Haute-Vaquette aussi, à l'espace culturel Saint-André, qui ont vraiment œuvré pour qu'on travaille dans les meilleures conditions. Et ça a été très, très, très précieux pour l'équipe. C'est aussi ce qui nous a permis de tenir, même quand les dates ont été reportées. Un grand merci aussi à Cathy Lambert, avec la com du Val-de-Nièvre, qui nous accueille au Chiffon Rouge et qui a déplacé aussi sa date, qui s'est débrouillée pour que ce soit sur cette saison. Le PETR du Cœur des Hauts-de-France, Julien Robiquet, voilà, qui a fait tout un travail où on est en résidence de territoire avec des actions culturelles assez fortes autour du spectacle. Voilà, et puis aussi des enseignants. C'est toujours une aventure humaine hyper variée, hyper riche, très plurielle. C'est ce qu'on voulait, nous, hein, c'est que ce soit un temps d'échange. Et quand on va dans les lycées aujourd'hui ou dans les collèges et qu'on discute avec les élèves sur leur peur ou leur misère d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est leur urgence absolue à partager. Le mot collectif revient énormément, ce qui dément quand même l'adage selon lequel on serait tous coincés derrière nos écrans. Hein. Je pense que beaucoup de gens aspirent à les quitter ces écrans pour retrouver une incarnation. Je pense que le théâtre, pour ça, a de beaux jours devant lui.
Oui, pour vraiment recréer le lien entre les gens et pouvoir communiquer vraiment entre nous plus simplement et pouvoir acclamer ses opinions. Le spectacle a une prochaine date à venir à Péronne au mois de février. Vous reprenez en février?
Ça devrait être ça. Oui. Normalement, si on nous laisse travailler, on devrait faire cette fameuse première devant un public le 4 février.
Donc, ce sera à l'espace...
On a toutes les...
Oui.
Macorlan.
Oui. À Péronne. Vous disiez, on a toutes les
dates sur notre site internet compagnie-correspondance au pluriel.com.
Oui, on peut aussi vous retrouver le dossier donc du spectacle qui est également sur ce site et à noter pour les personnes qui souhaiteraient vous voir sur Amiens que le rendez-vous est pris pour le mois de février au Safran également.
Oui, le 19.
Est-ce que plus de dates vont être prévues ou juste les trois dates qui étaient initialement prévues?
La 6 initialement prévue. Mais il y en a une qui est reportée à la saison prochaine. Les autres dates seront faites sur la saison 21, là jusqu'en juin. Après, pour l'année prochaine, on espère. Après, le problème, c'est que comme on est en train de nous décaler toute notre saison, il va y avoir un embouteillage de spectacles à la rentrée prochaine qui me pose de gros problèmes et aux programmateurs et aux artistes. Voilà.
En tant qu'intermittent, comment ça se passe en ce moment pour tout ce qui est droit? Est-ce que ça continue? Vous avez une continuité qui peut avoir lieu?
Alors là, Delphine, je te laisse la parole.
Oui. Eh bien oui, j'ai la chance de pouvoir travailler encore un peu, même si c'est assez ironique de ne pas pouvoir... pratiquer le métier que j'ai pu choisir. Oui, il y a toujours l'aide du Pôle emploi, des heures qui sont déclarées même au minimum. Mmh. Mais la grande, grande, grande question, c'est cette question d'année blanche. Parce que clairement, je n'ose même pas faire le calcul du nombre d'heures perdues qui n'ont pas pu être réalisées par l'annulation et le report des spectacles. Donc ça représente un nombre d'heures énorme et ce nombre d'heures ne peut pas être clairement comptabilisé pour aller jusqu'aux 507 heures. C'est-à-dire que le temps, à chaque fois, quand les dates de représentation sont annulées, ce sont des heures en moins et le temps file tout de même et les heures ne vont pas être cumulées pour arriver à 507 heures en août. Donc, il y a cette grande interrogation de l'après-août 2021 qui est une véritable question et qui commence à être une source d'angoisse véritable, même si y a toujours cette, peut-être, je ne sais pas, cette naïveté ou cette envie d'y croire en disant que c'est pas possible que ça continue comme ça. Mais l'intermittence est vraiment, vraiment, vraiment en danger. Pour cumuler les heures et tout simplement travailler et avoir les 507 heures sur les 12 derniers mois et le temps diminue. Voilà.
Merci Marion Bonneau et Delphine Galland d'avoir été mes invités dans cette émission. Vous étiez ici pour nous parler de Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht. La nouvelle pièce de la compagnie Correspondance que nous allons pouvoir retrouver, je l'espère, au mois de février sur Amiens et sur les Hauts-de-France.
Merci.
Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Bientôt.
C'est con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Voleur ! Un assassin ! Un meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné !
En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.